En guise d'introduction, je voulais revenir un petit peu sur des éléments. Comment replacer ça, comment replacer en fait cette approche de la propriété dans une approche un peu plus générale des dynamiques de recomposition de l'espace, en mettant très, très rapidement la répartition du territoire métropolitain en grandes catégories, donc l'espace agricole qui en occupe un peu plus de la moitié, un tiers approximativement pour les surfaces boisées, landes et friches, espaces artificialisés et espaces naturels. Donc une répartition qui est issue de l'enquête Terruti, qui est une avec l'imagerie satellitaire Corinne Landcover, une des deux sources d'informations intéressantes sur la répartition de l'espace et sa recomposition au fil du temps. C'est à partir de ces informations-là, par exemple, que si on regarde comment les différentes catégories évoluent, on observe, c'est un peu nouveau sur la période récente, une régression des surfaces boisées, mais qui va porter surtout sur les bosquets plus que sur la forêt. Une augmentation des landes et friches et de l'espace naturel, mais dans des proportions finalement pas forcément très très importantes. À l'inverse, une réduction très très importante des surfaces agricoles, 83 000 hectares par an, donc mesurés sur les décennies, sur une décennie, puisque donc l'enquête Terruti présente l'avantage d'afficher un suivi diachronique sur un pas de temps de 10 ans de l'évolution de ces surfaces. Donc 83 000 hectares par an, et puis en face de ça, une augmentation des surfaces artificialisées. Alors quand je dis artificialisées, c'est l'urbanisation, mais c'est aussi les réseaux routiers, ferrés, etc., donc tout ce qui va avec, de l'ordre de 68 000 hectares. Et c'est un peu ces chiffres-là qui ont été à la base du fameux département qu'on affiche un peu facilement aujourd'hui, du département qui disparaît sur 10 ans. J'avoue que c'est une présentation que j'aime pas beaucoup parce qu'elle a tendance à caricaturer un peu. Alors, c'est vrai que 83 000 hectares par an en 10 ans, c'est approximativement la surface d'un département métropolitain, mais les choses sont bien plus complexes que la mise en regard des deux chiffres qui sont ici. L'enquête Terruti nous permet de voir que finalement, si je reprends sur un schéma un petit peu différent, les grandes catégories, espaces agricoles, forêts, landes et friches, sols artificialisés, et puis les autres usages dans lesquels on peut mettre l'espace naturel, même s'il n'y en a pas beaucoup, globalement en France. Quand on regarde comment évolue finalement l'espace agricole, effectivement il est en forte diminution, mais cette forte diminution, alors là j'ai remplacé les chiffres par une intensité des flèches pour être un peu plus parlant, elle se fait du fait de processus d'enfrichement de manière assez importante, d'artificialisation. En face, on a aussi des processus de défrichement qui remettent en usage agricole des surfaces importantes. On a des processus d'enforestation sur l'espace agricole et d'espace agricole qui gagnent sur la forêt aussi. Typiquement, les grands périmètres en culture de maïs dans la forêt landaise en est un exemple un peu caractéristique. Et donc finalement, cette diminution de 83 000 hectares, elle résulte d'échanges multiples, bien plus complexes que ce qu'on a envie de dire en première approche, au vu des chiffres juste d'évolution par catégorie. Et puis finalement, si on complète le schéma, effectivement, cette dynamique de redistribution entre les différents usages, les différentes utilisations du sol concerne l'ensemble des catégories avec des phénomènes dans à peu près toutes les directions et qui du coup vont s'équilibrer pour certaines et s'accentuer pour d'autres. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'idée de ce schéma-là, donc ici ça reprend les chiffres à l'échelle nationale, symbolisée par l'intensité de mes flèches. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir construire la configuration de ce schéma-là à l'échelle d'un territoire, puisqu'il va varier considérablement selon le territoire sur lequel on est, et sous l'effet des jeux d'acteurs qui vont s'opérer. Donc l'idée sur un territoire, c'est de pouvoir redessiner la configuration de ce schéma. Quelle est la dynamique majeure? Et comment elle s'explique? À la fois parce qu'elle s'inscrit dans le temps en prolongement de dynamiques passées, sous l'effet d'une évolution des systèmes de production agricole qui vont utiliser plus ou moins l'espace, qui vont changer les modalités de son utilisation ou pas, en fonction de la dynamique de redistribution de la propriété foncière qui va accompagner toute cette dynamique. Tout ça, bien sûr, dans un contexte économique, social, environnemental, politique, qui va évoluer au fil du temps, qui va nous amener à nous poser la question, aujourd'hui, quelle dynamique on peut imaginer pour l'avenir sur ce territoire, et puis, puisque c'est en termes de, d'action foncière, c'est ce qui va m'intéresser, pouvoir infléchir la dynamique que je peux imaginer pour l'avenir, donc qui pose toute la question de la prospective, comment on introduit une réflexion prospective par rapport à ça, et sous l'effet d'un jeu d'acteurs sur lesquels je mets en premier cercle, et je dis bien c'est un premier cercle, parce que pour moi ça correspond au cercle réellement décisionnel sur l'utilisation de l'espace, qui va être donc le groupe des propriétaires avec leur logique patrimoniale, quelles décisions ils vont prendre vis-à-vis de leur patrimoine et comment ça va se traduire dans ce jeu foncier. Les exploitants agricoles, liés à la dynamique de renouvellement des exploitations, aux logiques d'évolution de ces exploitations, d'agrandissement, à leurs pratiques foncières qui vont peser sur cette dynamique. Et comment les acteurs collectifs, et quand je dis acteurs collectifs, ici je pense essentiellement aux collectivités territoriales, locales, communes, communautés de communes, comment elles vont intervenir pour arbitrer sur cette dynamique, l'orienter dans un sens, dans un autre, par différents outils fonciers qu'elles ont à leur disposition. Et si je dis les collectivités territoriales locales, c'est bien parce que ce sont elles qui ont le premier niveau de compétence en la matière. Donc bien sûr, elles agissent toujours en partenariat avec d'autres acteurs institutionnels qui vont leur permettre de développer tel ou tel outil foncier, tel ou tel dispositif, mais ce sont bien ces acteurs locaux qui ont les premiers niveaux de compétence. De la même manière, quand on dit, par exemple, que c'est la politique du Fonds forestier national qui a entraîné une forte progression des surfaces boisées, très probablement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire ça, les surfaces forestières progressent sur l'espace d'abord parce que des propriétaires décident de planter des arbres sur leur parcelle. S'ils décident de planter des arbres, il y a certainement de l'exonération trentenaire d'impôt foncier, du Fonds forestier national, qui les y incite. Mais ce qui m'intéresse, c'est bien la logique de cet acteur propriétaire, comment il mène son raisonnement, à partir de quels éléments de politique extérieure il va intégrer pour faire ses choix. Voilà. Et donc, dans ma présentation d'aujourd'hui, ça va être essentiellement de cibler sur cet acteur propriétaire. Je mène d'autres travaux sur les logiques foncières des exploitations agricoles, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler plutôt propriété, parce que c'est le domaine que j'ai un peu plus investi ces dernières années dans différents programmes de recherche. Alors, je vous parlerai d'ailleurs pas que de milieu rural, puisque mes travaux ont aussi porté sur des espaces périurbains, et dans mes illustrations, il y aura quelques exemples périurbains. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, quelques mots pour préciser en quoi cette question de la propriété m'apparaît incontournable sur les questions d'aménagement et de développement du territoire. D'abord parce que l'appropriation du sol est un des modes majeurs de la relation de l'homme à l'espace, la manière dont il va investir et s'approprier cet espace. Que tout ça va se retranscrire dans le droit et que on va introduire donc toute une configuration de ce mode d'appropriation et de mise en valeur du sol qui va aussi traduire tout un tas d'options philosophiques, politiques, religieuses de la société qui est ici. En aménagement, plus concrètement, c'est une question incontournable dans la mesure où le propriétaire garde un droit majeur par rapport au choix sur l'utilisation du sol. Or, c'est assez frappant de constater que, effectivement, à part dans les années 70 où les travaux sur le foncier et plus particulièrement sur la propriété ont été développés, depuis un certain nombre d'années, la propriété est relativement facilement éludée sur ces questions d'aménagement. Quand on a lu dans un document d'aménagement que ici la propriété est très morcelée, les propriétaires sont absentéistes, voilà, on a à peu près dit tout ce qu'on avait à dire sur la propriété. Et ça s'explique très certainement par le fait que pendant longtemps, travailler sur la propriété, ça supposait mobiliser une information cadastrale très lourde, très difficile à mobiliser, à manipuler, et qui fait que ça a rebuté pendant longtemps un certain nombre de chercheurs. En conséquence, aujourd'hui, la propriété, c'est finalement, quand je dis la propriété, j'entends arriver à caractériser qui est propriétaire de quoi sur un territoire. C'est finalement une question relativement mal connue et, j'ai envie d'ajouter, mal intégrée par l'action publique. On a tendance à réduire le regard qu'on porte sur l'acteur propriétaire à travers la vision qu'on en a par le marché et en lui attribuant de manière un peu rapide une stratégie de qui consiste à maximiser sa rente foncière quasi unique stratégie. Je préciserai, sur des espaces périurbains où le marché foncier est particulièrement actif, moi j'ai fait des évaluations de transfert de propriété, sur un pas de temps de 10 ans, on a à peu près le tiers de la propriété foncière qui a changé de main sur 10 ans, et sur ce tiers, on en a un quart qui passe par le marché. Voilà. Donc, quand on veut s'intéresser aux stratégies des propriétaires par rapport à l'utilisation de l'espace, réduire les choses au marché, ça veut dire qu'on s'intéresse à 8% de la surface du territoire et de l'ordre d'un un peu moins d'un pour cent par an. Alors j'avais prévu aussi de faire quelques retours un petit peu d'ordre général sur la question de la propriété foncière. Avec quand on s'intéresse à la propriété, donc on s'intéresse forcément un peu à des questions de droit. C'est par nature une question interdisciplinaire. Hein. On interroge le droit, on interroge l'économie, on interroge l'histoire, on interroge la géographie, l'anthropologie, etc. L'aménagement. Sur la question du droit, un des éléments essentiels dans la manière dont est construite la propriété, alors là c'est peut-être pas forcément à l'échelle d'un territoire, mais c'est à l'échelle d'un État, on distingue assez souvent ce qu'on appelle la construction par le haut et la construction par le bas. La construction par le bas, on entend ce qu'on connaît dans les pays d'Europe occidentale, où finalement la propriété foncière telle qu'on la connaît aujourd'hui en France, elle s'est faite par élargissement progressif de droits au fil du temps qu'on a progressivement transmis à la population avec l'élément majeur, le tournant majeur de la Révolution dans ce cas-là. On entend plutôt création par le haut, ce qu'on a observé dans les pays colonisés, dans toutes les régions, États et colonisés, donc que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit l'Afrique, c'est-à-dire un colonisateur qui arrive, qui considère qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de propriété, qui met les cadres de la propriété et qui transmet plus par décision qui vient par le haut. Sur le cas qui nous préoccupe plus aujourd'hui, le cas français, donc on a tendance à dire aussi que avec la Révolution, le choix qui a été fait et qui n'était pas évident au moment de la Révolution d'ailleurs, il y a eu des discussions assez tendues entre les différents clubs sur la manière dont on recréer une nouvelle propriété. Donc le choix qui a été fait de propriété pleine et entière, on a un peu, entre guillemets, inventé l'acteur propriétaire à qui on pourrait dire de manière un peu caricaturale qu'on a dans un premier temps, à qui on a donné dans un premier temps tous les droits de propriétaire et qu'on a commencé très très vite à retirer progressivement par tranche, puisque très très vite, ça s'est avéré impossible. Mais on en a quand même fait un droit inviolable et sacré, hein, qui est écrit dans les textes, avec d'ailleurs j'ai envie toujours de souligner l'intérêt de la référence au sacré, alors qu'on sait que dans d'autres sociétés, c'est parce que la terre est sacrée qu'on ne peut pas l'approprier, donc on a une lecture du sacré un peu particulière. Et qui du coup s'est traduit aussi dans la manière dont on l'a transcrit dans le droit, l'usus, l'abusus, le fructus. Et ce qui va m'intéresser sur un territoire, c'est de voir finalement comment ces droits, usus, abusus, fructus, sont détenus, par qui est-ce qu'ils sont détenus, et comment ils sont investis par les propriétaires. Sur un territoire, finalement, donc la propriété d'aujourd'hui, elle résulte de toute une dynamique, je l'avais mis dans mon schéma précédent, dans laquelle on va trouver tout un tas de modalités de redistribution de la propriété, avec bien sûr la dynamique du marché, hein, je vous dis ce qu'il en était, et dans lesquelles pèsent aussi énormément les pratiques patrimoniales de dévolution des biens dans les familles. Il y a des anthropologues qui se sont particulièrement intéressés à ces questions-là, la manière dont dans les familles, famille, on a géré la transmission des biens avec des logiques de partage au maximum dans certaines régions, donc où chacun avait la même part de la propriété en récupération, et puis il est dans d'autres régions, donc dans des secteurs des Pyrénées, dans des secteurs du Massif central, en Lozère, enfin dans le Gévaudan en particulier, où ce sont des logiques d'attribution en priorité à un aîné, qui est d'ailleurs pas forcément l'aîné en âge, mais l'aîné choisi par le père comme le fils le mieux à même de perpétuer l'activité. Et donc derrière ça, en fait, on a forcément des modalités de recombinaison de la propriété sur le territoire totalement différentes. Autre facteur important dans ce qui fait aujourd'hui la propriété sur un territoire, c'est bien sûr toute l'évolution démographique et ce que j'appelle la redistribution spatiale de la propriété entre des régions où on a une propriété qui est relativement concentrée dans une population, dans les mains d'une population locale, et d'autres secteurs où les phénomènes d'exode se sont accompagnés d'une propriété qui est aujourd'hui entre les mains de gens qui sont ailleurs. On a aussi la propriété investie depuis l'extérieur. Voilà. Et puis, l'effet aussi, bien sûr, des politiques foncières qui ont pesé sur la manière dont s'est recomposée la propriété, soit parce qu'elles l'ont orientée avec des choix très marqués dans les moyens qui ont été donnés aux SAFER, par exemple, avec le droit de préemption, avec l'orientation de la propriété entre les mains des agriculteurs, partant du principe que le meilleur moyen de préserver l'espace agricole, c'est d'en donner la propriété aux agriculteurs, ce qui pose un peu question d'ailleurs, mais on pourra y revenir. Et puis donc toutes les politiques de réorganisation foncière qui ont pu exister. Et voilà, donc tout ça va marquer ce qu'est aujourd'hui la propriété sur un territoire. Donc mon objectif à moi, c'est donc un peu en référence à ce que je disais, la vision de cet acteur propriétaire qui n'aurait qu'une stratégie, celle de maximiser sa rente foncière. Donc mon objectif, c'est de dépasser cette vision un peu monolithique et de mettre en évidence toute une diversité de profils de propriétaires qu'on peut rencontrer sur un territoire. Avec aujourd'hui, par rapport à ce que je disais sur les années 70, la possibilité d'accéder à des fichiers informatiques qui permettent quand même une information bien plus facilement accessible aujourd'hui, et qu'on va pouvoir réorganiser. Alors, avec une réorganisation qui peut se faire par compte de propriétaire, ou qui peut se faire à des échelles territoriales. Et c'est ce que j'ai fait en fait sur différents programmes de recherche sur les années qui viennent de passer. Mobiliser cette information cadastrale et la réorganiser à plusieurs échelles, donc l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes, pour avoir une vision assez précise de l'exhaustivité de la propriété, mais à partir des matrices cadastrales, mais avec une représentation en profil dans laquelle je vais essayer d'injecter du qualitatif. C'est-à-dire que ce travail, il est à l'interface d'une approche quantitative en mobilisant l'ensemble des propriétaires, mais que je vais essayer de reconstruire en essayant de faire parler qualitativement. Donc ce travail a été mené comme je disais, sur plusieurs terrains, en Auvergne, Rhône-Alpes, en périurbain ou des terrains ruraux, et elle a été construite dans une optique opérationnelle dès le début, de manière à pouvoir appuyer des collectivités qui auraient envie de travailler ou de porter des projets qui ont une composante foncière et qui du coup seraient amenées à s'interroger sur à qui ils ont affaire, quel est le entre guillemets, quels sont leurs interlocuteurs dans ce projet foncier. Donc quelques mots sur là pour l'instant juste sur les terrains périurbains, parce que ça va me permettre d'illustrer déjà quelques éléments de diversité. Donc un premier terrain qui était sur l'agglomération de Saint-Étienne, donc là on n'est pas dans le rural, mais on est sur la communauté de Saint-Étienne Métropole, 43 communes, 400 000 habitants, et sur le cœur de l'agglomération stéphanoise. Mais on verra qu'il y a de l'espace agricole de manière assez importante aussi sur un territoire comme celui-là. Le Pays Voironnais, aux portes de l'agglomération grenobloise, 34 communes, 92 000 habitants. La communauté de communes des Chères, là on est en périurbain de Clermont-Ferrand, 11 communes, 11 000 habitants. Et puis la Communauté de communes de Billon-Saint-Dié, 17 communes, et on est sur la dernière couronne de l'agglomération clermontoise. Derrière ces terrains, on a en fait un gradient de périurbanité, puisqu'on est, avec les quatre exemples, sur chaque fois sur des territoires, on s'éloigne du centre urbain avec chacun de ces territoires. J'ai mis, en référence au schéma que j'ai présenté tout à l'heure, la répartition de l'espace sur chacun de ces terrains, et on voit que, y compris sur un territoire comme celui de Saint-Étienne Métropole, on a quand même la moitié de surface agricole sur cet espace périurbain. Et on va jusqu'à 75% quasiment de l'espace agricole quand on est sur la dernière couronne, mais ça c'est pas surprenant. Intéressant. C'est quelques éléments sur les structures de la propriété. Alors, on va pas sans forcément les détailler tous, mais je voulais pointer sur quelques chiffres un peu significatifs. La propriété moyenne sur ces territoires périurbains, on est en grosso modo entre 1 et 2 hectares de propriété moyenne. On est vraiment donc sur de la micropropriété. Avec quand même une nuance, c'est que, bien sûr, dans la propriété sur ces espaces périurbains, on va trouver dans les comptes cadastraux tous les comptes typiques du milieu urbain ou périurbain, c'est-à-dire les gens qui sont propriétaires de leur maison et du petit jardin qui est autour en zone pavillonnaire. Donc, qui eux ne m'intéressent pas, alors peuvent m'intéresser en tant que habitant qui exprime des attentes, des demandes par rapport à l'espace, le cadre de vie, le paysage dans lequel ils sont, mais qui ne m'intéresse pas dans la réflexion sur comment ces gens-là vont intervenir dans la dynamique. Et si on extrait des matrices cadastrales l'ensemble de ces propriétaires, en fait, on est déjà des choses. Alors, on a le pourcentage là qui fait apparaître le pourcentage de propriétaires qui détient sur ces territoires-là, ce que j'appelle du foncier non bâti, alors pas au sens fiscal strict du terme, mais qui détiennent au moins dans leur patrimoine une parcelle agricole, de bois, de land, voilà, que je ne rattache pas à cet espace périurbain. Et donc on va bien sûr de 68%, c'est-à-dire la grande majorité des propriétaires qui ont ce type d'espace-là, agricole ou forestier, quand on est sur la dernière couronne, on en a plus qu'un quart quand on est sur l'agglomération de Saint-Étienne. Par contre, donc du coup, quand on ne reconsidère la propriété moyenne que sur ces comptes-là, ça équilibre à peu près les situations et on est autour de 3 hectares. On reste sur de la petite propriété, mais... Alors, petite propriété, je fais une petite parenthèse, ça m'arrive assez souvent de parler de grande propriété, des fois dans une intervention, quand je parle de 15 hectares. Je dis 15 hectares de la grande propriété. Et il y a assez souvent dans le public quelqu'un qui me dit « Oui, mais comment vous pouvez parler de grande propriété pour 15 hectares quand on a des surfaces moyennes d'exploitation à 75 hectares aujourd'hui en exploitation professionnelle ou à plus de 50 même au total recensement agricole ?» Je précise bien, je parle de propriété. Et que derrière, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Et justement, ça permet de mettre en regard sur ces territoires-là, par exemple, le nombre de propriétaires de surfaces agricoles en regard du nombre d'exploitations au dernier recensement. Et on est sur des... Alors déjà, c'est assez intéressant de voir qu'on a 823 exploitations sur l'agglomération de Saint-Étienne, donc un nombre relativement important. Et quand on regarde le rapport entre les deux, en fait, on est sur des rapports qui vont de 1 à 16 à 1 à 30 quand on est sur le pays voironnais. Dit autrement, on a, selon ces territoires, pour chaque agriculteur, derrière son exploitation, 20 à 30 propriétaires différents. Alors, faut peut-être nuancer, hein, quand je disais, puisque donc ceux où le rapport est le plus faible, 1 à 16, c'est sur l'agglomération de Saint-Étienne. Ça s'explique peut-être par un nombre assez important d'exploitations agricoles qui peut s'expliquer, hein, compte tenu de ce qu'est le recensement agricole, de différentes manières, à la fois parce qu'on est sur du périurbain et qu'on a peut-être beaucoup de petites exploitations sur les systèmes maraîchage sur la couronne périurbaine, mais ça peut être aussi révélateur de tout un tas de propriétaires qui sont restés, qui ont gardé la main sur leur surface agricole, qui veulent apparaître stratégiquement comme exploitants agricoles, qui peuvent être très souvent cotisants solidaires à la mutualité sociale agricole, plus qu'autre chose, mais voilà, qui ont une stratégie de conservation de leur patrimoine, parce que c'est potentiellement à bâtir un jour, et qui sont identifiés par le recensement agricole comme exploitants, parce qu'ils remplissent les critères de la définition statistique de l'exploitant agricole. Alors, pour aller un peu plus loin, donc là, puisque j'ai donné une image très rapide sur chacun de ces territoires, pour aller un peu plus loin, donc je disais arriver à caractériser la propriété à travers des profils de propriétaires. Pendant longtemps, dans le domaine de l'aménagement, les gens ont rejeté le cadastre comme source, parce que le cadastre présente toujours des biais. Hein. On sait que sur les natures cadastrales, on a des écarts. Bon, j'ai fait quelques tests sur la surface forestière, par exemple, entre ce qu'on peut trouver à la même date au cadastre ou à l'inventaire forestier national. Bon an, mal an, on a, à l'échelle de la forêt française, il manque au cadastre 10% de la surface de la forêt française. Quand je suis sur l'échelle auvergnate, à la même date, je suis à 20%. Et quand je descends sur certains territoires à l'intérieur de l'Auvergne, je pense à la chaîne des Puys, où il y a une progression forestière très forte qui n'a pas été actualisée au cadastre, on est à 50%. Il manque la moitié de la forêt au cadastre par rapport à la réalité du terrain. Donc ça, c'est effectivement un des éléments qui suscite toujours un peu de réticence à l'utilisation des données cadastrales. Et puis l'autre donnée un peu biaisée, c'est effectivement l'identification des propriétaires, puisque donc il y a toute une inertie dans la mise à jour des données cadastrales qui fait qu'on n'a pas toujours le réel propriétaire identifié sur le document. Il reste que j'ai tendance à considérer que c'est quand même une source assez intéressante et qui donne malgré tout une assez bonne image de la propriété quand on peut la mobiliser à l'échelle d'un territoire comme celui-là. Sur un secteur comme Saint-Étienne Métropole, par exemple, on a 20 000 comptes de propriétaires sur ce que j'appelais tout à l'heure le foncier non bâti. Donc on a une base de données déjà qui permet de s'extraire un peu de ces éléments. Alors, quand on pense cadastre, on pense très souvent, en premier lieu, on pense au plan. Moi, ce qui va m'intéresser plus, ça va être la documentation littérale. Je pense déjà à la table des parcelles, qui va répertorier chaque parcelle sur le territoire par son numéro. Et chaque parcelle va être associée à un certain nombre d'informations, qui vont être d'abord la surface, la nature cadastrale qui a été retenue pour le classement, l'identification du compte du propriétaire avec la codification, donc la lettre correspondant à l'initiale du nom, et puis le chiffre étant une manière d'incrémenter sur le territoire de la commune, c'est le 42e M qui a été enregistré, avec une petite précision. Les personnes morales identifiées par ce que j'appelle les comptes en plus, la lettre est remplacée par un plus, puisque donc il n'y a pas d'initiale de nom. Et puis, autre information, donc l'année de rattachement de la parcelle au compte du propriétaire. L'illustration ici, c'est que mon deuxième propriétaire, le M42, par exemple, sur le petit bout d'extrait que j'ai mis ici, a deux parcelles au moins sur cette tranche du registre, une acquise, on ne sait pas comment, en 83, et une autre acquise en 85, on ne sait toujours pas comment. Mais voilà, une propriété qui s'est constituée au moins en 2 temps. Et puis, en face de ça, ce qu'on appelle la table des propriétaires, où on va retrouver à nouveau le compte, l'identification du compte de propriétaire avec son code, et sur lesquels on va trouver une information, donc son nom, date, lieu de naissance, son adresse, la nature des droits. Alors, quand je dis la nature des droits, c'est quand on entend propriétaire, on l'entend au sens juridique du terme, c'est-à-dire un ensemble de personnes titulaires des mêmes droits sur un bien. Ce qui veut dire que derrière mon compte propriétaire ici, ce qui apparaît, c'est l'identification d'un individu. Mais si je suis en situation d'une indivision, derrière ce compte M42, il peut y avoir en autant de fois qu'il y a de propriétaires indivis sur ce compte-là, l'information, nom, date de naissance, adresse, etc. L'autre nuance, c'est les propriétés des personnes morales qui ne seront pas identifiées, bien sûr, par le nom, la date et le lieu de naissance. Par contre, l'adresse, oui. Et une autre information qui est celle du code INSEE d'identification de la nature de la personne morale. Est-ce que c'est une association, une collectivité territoriale, une société avec des codes différents si c'est la société est un GFA, par exemple, une société civile immobilière. Et puis, des codes différents sur d'autres types de propriétés collectives comme les sectionaux, qu'on a de manière assez importante dans le Massif central. Donc voilà, je résume un peu à travers ces tableaux-là l'information cadastrale, et je vais préciser finalement qu'est-ce qui va m'intéresser. À travers l'identification des parcelles et leur surface, je vais pouvoir, pour chaque propriétaire, construire une information sur les structures de la propriété, sa dimension, sa répartition sur le territoire, son éclatement parcellaire. Voilà. Là, j'ai déjà un premier élément d'information, les structures de la propriété. Deuxième élément d'information, j'ai le compte et la nature des droits qui va, lui, me permettre d'identifier le statut juridique de la propriété, distinguant les personnes physiques, les personnes morales, et en cas de personne physique, les cas où j'ai un individu qui est seul propriétaire, des cas où j'ai des situations d'indivision avec le nombre de personnes concernées par l'indivision, 2, 3, 4, 5, 6, et quand j'ai des indivisions à deux personnes, je peux même identifier des indivisions qui sont des indivisions de couple. Les deux propriétaires indivis sont un couple, alors que dans d'autres situations, je peux très bien avoir frère, sœur, cousin, etc. Sachant que derrière cette information-là, ce qui m'intéresse, moi, quand je dis essayer de rentrer du qualitatif dans l'approche quantitative de la propriété, c'est d'avoir des éléments sur un indice d'éclatement de la décision concernant la propriété. Quand j'ai une personne tout seul, prend la décision qu'il veut sur sa propriété. Quand je suis sur une situation d'indivision, les choses sont beaucoup plus complexes parce qu'il faudra mettre tout le monde d'accord. Et j'ai des situations de propriété qui peuvent être complètement bloquées sur des pas de temps assez longs. Et puis, j'ai d'autres situations que j'appelle plutôt gelées parce que ça interne dans le temps. Ce sont les situations où les droits sont découplés différemment avec de la nue-propriété et de l'usufruit, où il y a un des titulaires qui a une possibilité de prendre des décisions, mais pas d'autres. Et puis, voilà. Et qui, généralement, gèlent aussi la propriété. Mais en même temps, traduisent chez les propriétaires des logiques de transmission du patrimoine anticipées. Voilà. Donc, à travers ces informations-là, comment la construire en termes de pouvoir de décision sur la propriété. Autre information, donc ça va être la nature cadastrale. Alors, avec la réserve que j'ai mettée sur l'actualisation de l'information. Hein. Donc, généralement, je fais un travail d'évaluation de cette fiabilité de l'information cadastrale par croisement de sources pour savoir si ce que je vais dire à partir du cadastre est fiable ou quel est le degré d'erreur que ça peut m'introduire. Et donc, à travers cette information sur la nature des biens, donc qui peuvent être ici, donc pré-jardin, inter-verger, mais j'ai la classe sol qui m'indique aussi la présence d'un bâtiment ou pas dans la propriété, à l'exception de quelques cas de classification sol assez particulier, où c'est pas un bâtiment, mais c'est rare. Donc, il va me permettre de dire effectivement de quoi se compose le patrimoine de la personne sur ce territoire. Est-ce qu'il y a des biens immobiliers? Est-ce qu'il y a du bâti? Et sur le foncier non bâti, est-ce qu'on est dans des catégories agricoles, des catégories forestières? Et ainsi de pouvoir distinguer des gens qui détiennent exclusivement de l'espace agricole, d'autres qui détiennent exclusivement des surfaces boisées, et puis des gens qui ont des patrimoines un peu composites dans lesquels on va trouver des surfaces agricoles, des bâtiments, des bois, des landes, etc. Sachant que derrière, on va avoir aussi des interrogations sur la nature des décisions que la personne a à prendre. Si on est propriétaire de surfaces agricoles, ben ça va être comment ces surfaces sont exploitées, par qui, avec quel type de contrat, et donc les questions qui nous viendront derrière. Si on est sur des patrimoines majoritairement forestiers, les questions qui vont nous venir derrière, ça va être, est-ce qu'il y a des pratiques sylvicoles, est-ce que la personne abat des arbres, alimente une filière bois sur le territoire ou pas, comment, etc. Autre information, donc on va trouver la date de naissance qui elle va nous indiquer donc l'âge des propriétaires, qui est intéressante à l'échelle du compte en tant que propriétaire, hein, moins à l'échelle d'un territoire. Pourquoi je dis moins à l'échelle d'un territoire? Parce que par définition, par nature, j'ai presque envie de dire, la pyramide des âges des propriétaires fonciers est une pyramide de âgé. On est avec des processus, je le disais, de transmission du patrimoine qui passent essentiellement par le biais des héritages, donc entre des classes, j'ai envie de dire dans les classes 80, vers leurs enfants qui sont dans les classes 60, et donc en fait on entretient une pyramide des âges, une propriété entre les mains d'un public relativement âgé. L'adresse nous permet de localiser, bien sûr, le propriétaire, avec derrière l'idée de la localisation. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, finalement, l'éloignement ou pas du propriétaire par rapport à son patrimoine va peser sur les modalités de sa gestion. Hein, est-ce que ça va devenir une contrainte? Et puis, la manière dont on peut lire derrière ça aussi le lien qu'il entretient avec ce territoire, avec la possibilité de cartographier directement des effectifs de propriétaires. Alors là, je suis sur un territoire qui est ici, là, qui est délimité ici, qui est zoomé ici avec la répartition des propriétaires, hein, donc en effectif. Et sur ce territoire-là, on voit qu'il y a un nombre important de propriétaires qui est aujourd'hui sur les agglomérations de Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Le Puy et Paris, avec un contingent malgré tout important sur le territoire. Pour simplifier quand même l'approche compte tenu de la multiplicité des propriétaires et donc des adresses, je réorganise ça en groupes identifiés à partir d'auréoles de distance temps établies grossièrement par rapport à la localisation. Et donc sur un territoire comme celui-là, je vais distinguer ceux que j'appelle les locaux, ceux qui sont vraiment sur le territoire, les voisins qui sont vraiment sur les cantons voisins ou les communes voisines, ceux que j'appelle les régionaux proches qui sont encore à une distance acceptable en temps de route du lieu où ils sont propriétaires, les régionaux lointains et au-delà, les régionaux éloignés, et au-delà, les lointains. Voilà. Je reclasse pour chaque territoire et chaque propriétaire, en fonction de son adresse et de la localisation du territoire, en ces cinq catégories. Autre information, donc j'ai pointé tout à l'heure là-dessus, sur l'année de rattachement des parcelles au compte du propriétaire, qui peut être lu en termes de dynamique de constitution des patrimoines. On va trouver des comptes de propriétaires sur lesquels la totalité des surfaces du patrimoine a été acquise en une seule fois, il y a 25 ans. Voilà. Et depuis, ce patrimoine-là n'a pas bougé, cette propriétaire-là n'a pas bougé. Et à l'inverse, on va trouver des gens qui ont la même surface aujourd'hui, mais qui a été abondée au fil du temps par des nouvelles parcelles qui, chaque année, peuvent... se rajouter à la propriété. Et donc là derrière, on peut avoir aussi un indice de logique par rapport à la constitution du patrimoine. Et quand je mets aussi sur l'autre aspect lieu de naissance et en regard de l'adresse, c'est pour pouvoir faire une lecture comparée de ces deux informations de localisation qui va permettre d'identifier des propriétaires qui sont nés sur le territoire et qui n'y réside plus aujourd'hui, et dont on a envie de dire la propriété aujourd'hui, elle résulte d'un phénomène d'exode, elle a accompagné un phénomène d'exode. Les distinguer de propriétaires qui sont nés sur le territoire et qui y sont toujours, de ceux qui sont qui résident sur les territoires et qui n'y sont pas nés, et donc là on peut imaginer qu'on est dans un processus d'attractivité du territoire qui va jusqu'à l'investissement dans la propriété, et de ceux qui sont ni nés sur le territoire et qui n'y résident pas, et dont on se pose un peu la question, comment ça se fait qu'ils sont propriétaires aujourd'hui sur ce secteur géographique. Voilà, c'est un ensemble de critères que je vais trouver finalement dans des bases de données quantitatives, mais que je vais essayer de faire parler en termes quantitatifs, de manière à pouvoir traduire ce que j'appelle donc ces profils de propriétaires par analyse multicritère. J'utilise donc des techniques d'analyse de données qui me permettent d'appareiller pour chaque propriétaire l'ensemble de ces informations, la structure de propriété, l'âge, la localisation, etc. Et de construire donc les profils autour de cet appareillage, avec des profils qui souvent s'organisent autour de trois thématiques majeures, donc la composition des patrimoines derrière lesquels on va avoir une idée de sa valeur en surface, qu'on pourrait pondérer, j'ai fait quelques tentatives avec l'information revenu cadastral que j'ai pas mis dans mes tableaux tout à l'heure, mais justement, qui n'a pas suffisamment de signification aujourd'hui en termes de valeur pour vraiment être utilisée. Mais voilà, déjà la dimension nous donne une idée de la valeur des patrimoines, les structures parcellaires, et puis les décisions qu'on peut être amené à prendre. des choses qui vont tourner autour des processus de décision pris des propriétaires liés au statut juridique, à l'âge, à la localisation des propriétaires, et puis des choses qui vont se traduire dans les dynamiques. Voilà. Alors, pour l'illustrer, je vais vous le mettre donc sur une typologie des propriétés telle que je la représente schématiquement. Donc avec, ça va s'organiser entre ici sur ce plan factoriel avec des propriétés des plus petites aux plus grandes. Et puis ici on a des propriétés sur le bas majoritairement agricoles et à l'opposé des propriétés majoritairement boisées. Alors ça va vous paraître peut-être un peu, ça va sembler un peu compliqué parce que sur un comme je vous disais, sur un territoire comme celui-là où on a 20 000 comptes de propriétaires qui sont tous utilisés dans la construction de la typologie, vous imaginez qu'en appareillant l'ensemble des critères, on arrive à une diversité de configurations. Donc, on a beaucoup de types de propriétaires. On a ici donc les comptes majoritairement agricoles avec plusieurs nuances dans les surfaces. Je zoome pour vous expliciter le contenu de chaque patate plus particulièrement. On va avoir des nuances qui vont être liées au statut juridique, à la localisation, au fait qu'il y ait du bâti ou pas. Alors, la présence du bâti, pour moi, elle est importante parce qu'elle suppose des modalités de gestion particulières. Voilà. Donc, une caractérisation des propriétés agricoles. Dans la même logique, les propriétés majoritairement boisées. Et puis, alors, des propriétés où ce qui domine, c'est l'espace naturel. Des gens qui sont majoritairement propriétaires de landes, de surfaces en eau, étangs, par exemple. Et donc là, on est plutôt sur vraiment de la petite propriété, à l'exception de propriétés qui sont un peu plus grandes, mais qui sont toutes celles de collectivités territoriales. Et puis, on a des comptes qui vont être composites, où on va trouver des surfaces agricoles, des surfaces forestières, et qui vont se situer un peu donc dans cet intermédiaire, dans ce gradient du tout agricole au tout forestier. Et puis, je vais rajouter, ici et là, donc un ensemble de comptes assez important, de gens qui ont en dominante de la propriété bâtie, et qui ressemble beaucoup à ceux que j'ai écartés dans un premier temps. Vous savez, ce dont j'ai dit, finalement, c'est la maison dans le lotissement, et que j'ai écarté parce que finalement, elle ne m'intéressait pas. Donc, c'est des gens qui ressemblent énormément à ce type de propriété, mais qui ont, à côté, toujours, on ne sait pas bien pourquoi, un pré, un carré de vigne, un verger, et qui fait que je les ai intégrés, parce qu'ils sont bien dans mon jeu foncier. Avec, bien sûr, la question, celui qui a un pré, est-ce que c'est quelqu'un qui a les chevaux sur du périurbain et qui garde ou est-ce qu'on est sur des gens qui ont gardé le bout de pré agricole en espérant qu'il soit constructible. Derrière chaque type, on peut décrire le profil type de la catégorie. Hein. Ici, par exemple, j'ai sur celui-là un particulier, seul propriétaire, entre 50 et 60 ans. Il réside l'agglomération lyonnaise, il possède entre 3 et 4 hectares. Majorité, c'est de la surface agricole, le reste, un peu de bois, il n'y a pas de bâtiment dans la propriété. Voilà, je peux décrire, sachant que derrière cette description, il me vient un certain nombre d'interrogations. Ce sont des surfaces agricoles, très majoritairement. Il habite l'agglomération lyonnaise, c'est donc pas un agriculteur sur le territoire. Il n'y a pas de bâtiment, je présuppose qu'il n'y a pas de résidence secondaire non plus. Les questions qui me viennent, c'est cet espace agricole, ces 3 hectares agricoles, comment ils sont exploités, par qui? De la même manière, sur d'autres terrains, alors là, j'ai réintroduit une petite case, ça ne concerne pas Saint-Étienne Métropole, ça concerne des territoires plutôt ruraux, mais sur de la grande propriété forestière, je suis sur un des plateaux du Massif Central qui s'est beaucoup boisé, on a de la grande propriété forestière, les questions qui vont me venir derrière, c'est quelle pratique sylvicole, quelle modalité de gestion, mais aussi des propriétés dans lesquelles il y a un peu de surface agricole, sur des secteurs où il y a eu très forte progression de la forêt, où on va se poser des questions. Quelle stratégie ils ont, ces propriétaires-là, vis-à-vis du peu de surface agricole qui leur reste? Est-ce qu'ils sont aussi potentiellement boiseurs et dans ce cas-là, ils vont peut-être entrer en conflit avec les collectivités locales qui mettent en place des réglementations de déboisement pour contenir la progression forestière sur ce territoire. Voilà. Le type de question qui peut venir et à renvoyer à un acteur institutionnel qui va gérer ce territoire et qui va avoir un projet foncier. Donc bien sûr, diversité, grande diversité de profils, mais on n'a pas les effectifs derrière, donc je les fais apparaître ici. On est sur un territoire périurbain, on a très majoritairement de la très petite propriété agricole. Si je pondère par les surfaces, ça peut être intéressant aussi parce que ça me permet de cibler des profils qui en effectif sont pas forcément très nombreux, mais quand je vais m'adresser à eux, je vais déjà toucher des surfaces bien plus importantes et un potentiel sur le territoire, un potentiel de surface plus important. Et puis, je peux avoir sur un même territoire des nuances assez importantes sur le périmètre de Saint-Étienne Métropole, par exemple, entre ce qui est le cœur de l'agglomération, la vallée du Gier vers Saint-Étienne, ou les campagnes voisines entre le Pilat, les Monts du Lyonnais, les Monts du Jarret ou l'Ouest Stéphanois, ou selon les secteurs géographiques, en fait, mes effectifs par type de propriétaire vont pas être les mêmes, et donc dans une politique foncière portée par la collectivité qui aurait à faire à un public de propriétaires, les modalités de cette politique sont peut-être à adapter en fonction de ce public. Sur des territoires, j'ai repris quelques exemples aussi sur des territoires ruraux, pour illustrer là aussi une diversité. Sur le secteur de la Chaise-Dieu, par exemple, où on a une propriété moyenne de 3 hectares, j'ai sorti aussi quelques chiffres qui peuvent être intéressants. C'est le nombre de propriétaires, le rapport entre le nombre de propriétaires et le nombre d'habitants, et le nombre de propriétaires agricoles et le nombre d'exploitations. Ici, par exemple, on a un nombre de propriétaires 6 fois supérieur au nombre d'habitants. On est typiquement dans une propriété qui s'est redistribuée avec les phénomènes d'exode, la carte de tout à l'heure avec les propriétaires basés à Clermont, Saint-Étienne, Lyon, Paris. Et on a aujourd'hui une propriété qui est essentiellement entre les mains, et des décisions qui sont aujourd'hui essentiellement entre les mains de citadins extérieurs au territoire. À l'inverse, sur un autre secteur, donc en Margerie cantalienne, où là, on est typiquement sur un des secteurs dont je disais, les anthropologues ont travaillé sur les logiques d'évolution des biens, et où on ciblait sur un seul héritier, l'aîné, c'est Pierre Lamaison, qui avait beaucoup travaillé à partir d'archives notariales et sur les modalités de transmission de la propriété, et il a montré que là, vraiment, on a très largement privilégié le repreneur de l'activité agricole, choisi par le père, dans la redistribution de la propriété. Et donc, ça s'est traduit par une concentration de la propriété aujourd'hui, malgré une dépopulation sur le territoire, une concentration de la propriété entre les mains de locaux, très majoritairement les agriculteurs, y compris pour les surfaces boisées. Alors, on a vraiment concentré sur le territoire et dans une catégorie socioprofessionnelle. Sur le massif du Sancy, dans le massif des Monts d'Or, on est dans une configuration un petit peu différente, et où là, on a presque un peu... La traduction de deux systèmes de propriété foncière, celui qui est proche de ce qu'on observe en périurbain et qui résulte de la dynamique touristique avec des gens qui sont sur le territoire, qui ont aussi quelques petites surfaces agricoles autour de leur patrimoine bâti, mais dans une logique proche de ce qu'on observe dans le périurbain. Et puis à côté de ça, on a la grande propriété agricole sur des territoires d'estive, qui traduit, elle, la logique agricole dominante du secteur. Et puis, typiquement aussi, donc j'ai mis aussi un exemple, donc l'exemple du bocage bourbonnais, où là on est sur le secteur classique du métayage, de la grande propriété noble du bourbonnais, et qui se traduit aujourd'hui très fortement dans les structures de propriété. Voilà, donc une manière de construire l'information en termes de profil. Je vais l'illustrer tout à l'heure par comment ça peut être utilisé de manière très opérationnelle ensuite. Mais avant, je voulais donc passer à une autre échelle et illustrer comment on peut organiser aussi cette information à une autre échelle. L'information n'étant plus organisée par compte de propriété, mais par commune, et en traduisant ça à travers des critères qui vont être des données de moyenne sur la commune, de pourcentage de la superficie de la commune qui a telle caractéristique, par exemple, pourcentage de la superficie de la commune en indivision, pourcentage de la superficie de la commune aux mains de propriétaires lointains, etc. Et donc là, l'information qui est manipulée derrière, c'est une information agrégée à la commune. Et donc, avec les mêmes logiques, réalisation de typologie par analyse multicritère. Donc, ce que je fais, ce sont des typologies de communes, donc qui peuvent être menées. Alors, moi, je l'ai essentiellement menée à l'échelle de SCOT, en travaillant sur 11 SCOT, villes moyennes de Rhône-Alpes, mais ça peut être mené à l'échelle d'une région ou d'un département pour illustrer la diversité des situations des communes en matière de propriété. Alors, donc voilà, les 11 SCOT de la région Rhône-Alpes sur laquelle le travail a été fait, avec des SCOT très... Alors, Lyon, enlevé de l'analyse parce que faussant quand même beaucoup le regard, mais avec des SCOT qui peuvent être donc le schéma directeur de l'agglomération grenobloise, donc déjà dans d'une périphérie urbaine assez forte. Et donc, par contre, le spot de Bourg-en-Bresse, qui lui, donc, on est surtout sur de la campagne, proche de Bourg-en-Bresse. Quelques données à l'échelle rapidement. Donc, on est sur des propriétés de l'ordre de 3 hectares. 30% des surfaces en indivision ou en usufruit, donc bloquées ou gelées par une situation de découplage des droits, et 10% des surfaces propriétés de l'État ou des collectivités. L'idée derrière, c'est un peu dans la même logique que mes comptes de propriétaires, c'est de caractériser mes communes. Donc là aussi, je retrouve des critères de dimension des propriétés et de concentration de la propriété sur le territoire. Alors là, on est plutôt sur du bas vers le haut. Et puis, en abscisse, plutôt des éléments qui traduisent le caractère composite des propriétés, à savoir si on a majoritairement sur ce territoire des propriétés uninature agricole, forestière ou autre chose. Et donc on a les communes qui s'organisent, les ensembles de communes, donc en typologie, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, donc avec différentes configurations communales. En illustrant quand même qu'ici on a trois catégories qui se traduisent avec un gradient un peu différent de communes caractérisées par de la petite propriété et plutôt découplées dans la nature des biens. C'est-à-dire qu'on a majoritairement sur ces communes-là un découplage du contenu des propriétés entre du bâti, de l'agricole, du forestier. Et puis à l'inverse, on a, excusez-moi, sur d'autres situations, avec des configurations différentes, des propriétés plus composites sur les communes, des gens qui possèdent un peu tous les types de biens et avec des nuances dans la propriété. Donc, en utilisant ma typologie en guise de légende, j'ai cartographié donc sur le territoire du spot de Saint-Étienne. Donc là, on a typiquement les trois classes de communes qui sont en fait sur l'axe urbain de Saint-Étienne. Et quand j'ai présenté cette carte-là aux élus de la communauté de l'agglomération, ils m'ont dit « mais ça, c'est la carte de la dynamique urbaine de Saint-Étienne ». Je dis « mais non, je n'ai que exclusivement dans ma base de données des données sur la propriété, des tailles de propriété, des tailles de parcelles, des pourcentages d'indivision, des pourcentages. Mais ce que ça illustre bien, c'est la manière dont finalement la propriété, elle va accompagner la dynamique d'urbanisation, mais comment la dynamique d'urbanisation en retour va jouer aussi sur la manière dont va se recomposer la propriété, probablement parce que ça va induire des stratégies différentes de la part des propriétaires, parce qu'on est sur la logique d'urbanisation possible qui va peut-être amener à garder un peu plus la propriété dans l'espoir de la voir bâtir un jour. Si je prends les autres exemples, en fait, on a aussi des types très marqués sur le territoire. Donc ici, on a un type très marqué Pila. On a un type très marqué Mont du Forez, donc sur les montagnes du Forez qui va séparer du département du Puy-de-Dôme. Et on a un type très marqué ici de grandes propriétés, qui est un secteur de grandes propriétés bourgeoises avec des élevages de chevaux. Et alors, c'est peut-être moins visible ici parce qu'il y a l'effet urbain de Saint-Étienne, mais sur les autres scots sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit Valence, que ce soit Chambéry, que ce soit et là où c'est le plus évident, c'est sur celui de Bourg-en-Bresse, parce que la ville pèse peu. On a derrière ces cartes-là les cartes des petites régions agricoles telles qu'elles ont été construites dans les années 50. Alors, il y a des gens qui m'ont répondu, mais vous êtes en train de me dire que tout ce qu'on a fait en aménagement foncier, ça n'a pas pesé. Ça a servi à rien qu'on ait remembré. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, on a remembré, on a changé les structures de propriété, mais on n'a pas changé la géographie des structures de propriété. Parce que les remembrements se sont faits par secteur géographique et ont bousculé la propriété sur une petite région de manière assez concentrée dans le temps, et qui fait que quand on regarde avec ce recul, on retrouve la carte des petites régions agricoles autour de... Alors, avec justement une nuance, c'est l'interpénétration des types urbains qui vont modifier chacun en bordure des types ruraux qui résultent de cette cartographie. Autre échelle, mais là on n'est plus sur la mobilisation des données cadastrales, encore je les utilise, c'est revenir à du qualitatif pur, et donc sur la question de la propriété, j'accompagne toujours mes travaux d'un certain nombre d'enquêtes auprès de propriétaires avec un échantillon qui peut être choisi pour illustrer la diversité des profils que j'ai fait apparaître dans mes typologies ou pour répondre à des préoccupations d'un acteur avec qui je suis en contact pour mener ce travail. C'est-à-dire que c'est les préoccupations de la communauté de communes qui m'amènent à cibler un type de propriétaire plus qu'un autre sans forcément être représentatif de la diversité. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir, à l'échelle de l'acteur, une meilleure compréhension de ce qu'est sa logique, sa stratégie, donc par enquête semi-directive. Donc là, on est sur de l'approche qualitative, de l'analyse du discours, des pratiques, de la connaissance de sa propriété, de la connaissance des acteurs du foncier, etc. Et donc des enquêtes dans lesquelles je vais essayer de situer le propriétaire, son parcours familial, personnel, expliquer comment ça se fait qu'il est propriétaire sur ce territoire, sa propriété, de quoi elle se compose, avec bien sûr l'information que j'ai moi par ailleurs, je la connais, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que lui est capable d'en dire, hein, comment il est capable d'exprimer la connaissance, mais aussi de savoir quels sont les biens qu'il possède ailleurs sur un autre territoire, qui peuvent expliquer la manière dont lui va ensuite se positionner en tant qu'acteur, parce que son appropriation n'est pas celle que l'on imagine en première approche. Les actes fonciers qu'il a pu poser, achats, ventes. Alors les achats, ça me permet d'expliquer l'apparition de nouvelles parcelles dans son patrimoine. Par contre, les ventes, je n'ai pas l'information puisque j'ai le cadastre à un instant T, mais ça me permet voilà d'illustrer aussi les actes fonciers qu'il a posés, les modalités de gestion de ces différents types de biens, agricoles ou naturels ou forestiers, les perspectives, les projets, la connaissance qu'il a des organismes fonciers, de la SAFER, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de voilà tous les organismes qui peuvent intervenir sur le foncier. Et puis, sa connaissance et son implication sur le territoire avec, bien sûr, un cortège de questions qui n'est pas tout à fait le même si c'est un habitant ou si c'est quelqu'un qui est éloigné. Et donc l'idée, c'est de passer un peu des pratiques aux logiques en illustrant comment situer en fait le positionnement d'un propriétaire sur son patrimoine. Avec quelques remarques que je ferai un peu d'ordre général, puisque sur les territoires périurbains, par exemple, j'ai une centaine d'enquêtes de propriétaires pour illustrer, et j'ai envie de dire que propriétaire, c'est un état relativement passif. Et si je dis ça, c'est que quand on regarde les actes fonciers qui sont posés, il y en a peu. Les propriétés sont souvent héritées et plus qu'achetées. Et donc, ça n'est pas dans une démarche proactive du propriétaire. Peu d'actes fonciers posés. Quand on demande les perspectives, les projets, peu de choses sont exprimées. Ça peut être transmettre, ça peut être... Ce qui est souvent exprimé, et ça illustre la question de l'âge dont je parlais tout à l'heure, ce qui est souvent exprimé derrière transmettre, c'est quelque chose qui est souvent exprimé, c'est plus moi que ça concerne, ce sont mes enfants. Ce qui d'ailleurs est particulièrement perturbant pour des aménageurs, parce que finalement, les enfants qui ont 60 ans, qui vont récupérer cette propriété-là, quand on va les interroger derrière, on va dire, mais ça ne nous concerne plus, ce sont nos enfants. Et finalement, on est sur une dynamique faible d'investissement actif par rapport à la propriété. Deuxième élément sur lequel j'ai envie d'organiser ces propriétaires, ça va être autour de la question de l'appropriation et de la territorialité. Ça va être d'identifier finalement comment ces propriétaires, comment se fait l'articulation entre une appropriation juridique, elle est écrite sur le cadastre, dans le code civil, et une appropriation plus affective du propriétaire. Est-ce que finalement, l'un accompagne l'autre? Et comment ça peut se traduire dans les logiques de comportement du propriétaire? Et puis en termes de territorialité, c'est de savoir finalement si le territoire de l'individu, au sens presque éthologique du terme, comment il s'articule avec le territoire de la collectivité sur laquelle je travaille et où j'ai une vision de la propriété et des propriétaires, mais circonscrite à un territoire qui n'a peut-être pas grand-chose à voir ou qui est assez éloigné du territoire, vécu, approprié de l'individu. Et ce qui m'amène à organiser les choses autour finalement d'une articulation entre avoir, être et faire comme positionnement de l'individu, en empruntant un peu à des travaux de psychosociologie, en reprenant finalement derrière du foncier, on peut voir, on met souvent derrière la question, c'est du patrimoine, c'est du capital, c'est aussi un outil de travail, en positionnant ça du point de vue d'un individu, on peut traduire ça par des verbes, être, avoir et faire. Derrière patrimoine, je mets être. Et là, j'ai affaire à des gens, quand ils me parlent de la propriété, ils me racontent essentiellement une histoire familiale. L'héritage, d'où ça vient. J'ai planté les arbres quand j'étais gamin avec mon grand-père. Il n'est pas question que je les coupe aujourd'hui, même si le technicien du CRPF vient me dire « ça vaut tant en Syrie ». Voilà. Donc, c'est des gens qui me racontent une histoire familiale. À l'inverse, j'ai des gens qui, derrière l'idée de capital que peut représenter un patrimoine foncier, je mets derrière l'idée d'avoir. Là, j'ai des gens qui me parlent plus de la valeur monétaire de leur bien. Est-ce que je vais pouvoir obtenir que ce soit classé constructivement un jour? Combien je vais pouvoir vendre ça? Je veux le vendre, mais les exemples que je prends sont typiquement issus d'entretiens. Je veux le vendre, mais je veux pas le dire tout de suite parce que ça va me permettre de faire monter la concurrence entre les agriculteurs pour faire monter un peu le prix. Voilà, c'est la nature du discours est de cet ordre-là. Et puis le faire, c'est plutôt des gens qui vont exprimer le caractère outil du foncier agricole, et ça ne sont pas que des agriculteurs, c'est-à-dire qu'on a bien des propriétaires qui ne sont pas agriculteurs et qui tiennent un discours du faire, c'est-à-dire des surfaces agricoles, ça doit servir à un agriculteur, moi je ne suis pas agriculteur, il est donc évident que je le mets à disposition d'un agriculteur, et ça ne me pose aucun problème de faire un fermage. C'est-à-dire que le fermage est souvent mis en avant comme une entrave à la mise à disposition des surfaces. On a des gens qui expriment très clairement, non, il faut que ça serve à un agriculteur, c'est pas mon cas, je le garde parce que pour l'instant j'ai pas de besoin particulier financier qui m'amène à m'en défaire pour telle ou telle raison. Alors, bien sûr, les propriétaires ne se situent jamais sur un seul registre de discours. Voilà, j'essaye de les positionner par rapport à l'articulation entre ces trois discours et de voir comment, d'ailleurs, ils peuvent être amenés à évoluer au fil du temps. Quelqu'un qui pourrait être sur du fer, parce que l'agriculteur, au moment où il prend sa retraite, c'est peut-être l'avoir qui reprend un peu plus de poids. Et alors, je boucle sur une des choses que j'ai dit tout à l'heure. Je disais, on a orienté la propriété du foncier agricole vers les agriculteurs en partant du principe que c'est eux qui protégeront le mieux les surfaces agricoles. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a un peu confondu un discours de la terre à l'agriculture avec la terre aux agriculteurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et dans les enquêtes, j'ai été assez frappé de voir comment les retraités agricoles sont assez habiles à louvoyer dans les réglementations foncières pour éviter justement tous les processus de régulation. Et ça s'explique par le fait que généralement les règles, ils les connaissent, parce qu'ils ont été confrontés avec ces règles-là tout au long de leur vie professionnelle. Les questions foncières, ils les connaissent aussi, parce que leur métier les amenait à s'interroger sur les différentes procédures qui étaient mises en œuvre, et ils sont assez habiles à le faire. Et donc, ça pose question justement sur cette logique de propriété donnée aux agriculteurs comme moyen de la préserver au mieux. Je vais illustrer pour finir, donc avec la manière dont ça peut être mobilisé, avec un exemple. Donc une municipalité qui s'interroge sur la mobilisation du foncier en déprise pour une installation. Donc on est sur la commune de Châteldon, on est sur le nord-est du département du Puy-de-Dôme, un peu au sud de Vichy. On a sur cette commune donc ce coteau qui est aujourd'hui bien enfriché. Quand je dis bien enfriché, il y a même des parcelles qui sont déjà même bien en forêt. Et la commune s'interroge sur comment remobiliser ce foncier pour installer, avec un projet qui est un peu plus large que ce seul projet-là, puisque l'idée, c'est de pouvoir installer un agriculteur qui alimente une cantine scolaire en produits bio. Les repas de la cantine scolaire sur la commune sont en bio chaque jour, donc a fait ce choix politique-là, et voudrait aller un peu plus loin dans sa dynamique, organise une foire bio chaque année, organise un salon des vins naturels, sur le territoire de la commune. Donc on est sur ce coteau-là, j'ai ici donc des images aériennes de 46 et actuelles, donc on voit le périmètre qui a été retenu par la commune, et on est sur les anciens secteurs viticoles typiques de l'Auvergne, sur les coteaux au-dessus du bourg qui est là. J'ai dû mettre une autre image où on voit sur une carte postale ancienne l'état du coteau qu'on a vu sur la... aussi sur la première image, bien enfin. Donc, la commune s'interroge sur comment remobiliser ce foncier pour une installation agricole. Donc, un peu à l'image de ce que je disais, on a travaillé en articulant les logiques d'acteurs, propriétaires, exploitation agricole, et puis l'acteur public, comment est-ce qu'il intervient. Bon. On a commencé à travailler sur les outils à la disposition de la commune pour mobiliser ce foncier, avec un certain nombre. Alors, en triant, on n'a pas passé en revue l'ensemble des outils existants. On a travaillé à partir de ceux qui nous apparaissent le plus pertinents compte tenu du site, du projet et de la configuration de la propriété et des possibilités agricoles. Donc, maîtriser le foncier pour la commune, ça peut passer par de la propriété, donc ça peut être de l'achat, ça peut être de la récupération des biens sans maître, ça peut être des procédures d'échange avec d'autres propriétaires pour concentrer sur ce périmètre-là la propriété de la commune. L'autre possibilité, c'est d'en avoir la maîtrise sans passer par de la propriété, en imaginant des formules de commoda, de baux amphithéotiques, bail amphithéotique, l'idée étant que la maîtrise en ait que la commune en ait la maîtrise pour pouvoir la retransmettre ensuite par location à un agriculteur. Et puis la troisième formule, qui ne passe ni par la location, ni par la propriété, ce serait de constituer une association foncière, alors sous statut agricole, pastoral, à voir, sur le périmètre à définir. On a listé ces outils comme nous semblant les plus pertinents. On a mené un travail sur les conditions de remise en valeur du site, quelle faisabilité, quel système de production. À partir des classes cadastrales des parcelles qui sont un indicateur de leur potentiel agronomique, puisque c'est l'utilisation passée, leur utilisation, leur état réel aujourd'hui, avec une classification un peu simplifiée sur trois catégories de niveaux d'enfrichement, cartographiées et illustrées par des exemples typiques. Le problème de la pente, hein, donc avec différents dénivelés de manière à illustrer les possibilités agricoles, sachant que derrière les systèmes de production, ce sera pas la même chose pour du maraîchage ou pour de l'élevage. Et puis une réflexion, voilà, donc sur une liste de systèmes de production envisageables, avec la pertinence de chaque système sur un tel site et au regard du contexte local. Avec derrière un inventaire des contraintes et des conditions sur chaque système envisagé. Quand je dis ça, pertinent sur un tel site, on n'a pas envisagé un élevage à l'étang charolais très, très clairement. Le seul activité d'élevage qu'on a imaginé, c'est un élevage de caprin ou ovin avec transformation laitière, donc pour valoriser au maximum. Et en face, donc, on a mené la réflexion sur les structures de propriété avec cette logique de profil de propriétaire. Alors, avec une petite précision quand même, on est sur un périmètre de 23 hectares. Je disais, périmètre viticole classique de l'Auvergne. Sur 23 hectares, on a 450 parcelles cadastrales et 190 comptes de propriétaires différents. Voilà. Donc, ce qui nous a amené, effectivement, à envisager l'association foncière. On a cartographié, on a représenté nos profils de propriétaires. Donc le travail a été mené sur l'ensemble des propriétaires de la commune, de manière à pouvoir identifier ceux qui sont sur le périmètre, mais en considérant aussi ceux qu'ils ont sur un autre secteur de la commune. Et la réflexion, en bout du compte, a bouclé l'ensemble en disant, compte tenu des structures de propriété, pour arriver à installer le système agricole qui présente le plus de contraintes, puisque les systèmes ont été classés sur un niveau de contraintes cumulées pour arriver à une installation, et la rapidité est mis en regard de la rapidité de mobilisation du foncier pour permettre l'installation. En fait, l'exemple, un système apicole, il suffit de dégager une parcelle pour pouvoir y mettre les ruches, et ça peut se faire. Faire de l'élevage au vin laitier sur les 23 hectares, on considère qu'il faut mobiliser rapidement l'ensemble du périmètre et pourquoi pas y rajouter quelques contraintes de surface fourragère supplémentaire, d'une bergerie, etc. Et donc on est sur un gradient de difficulté d'installation selon les systèmes et qui va être mis en regard de la rapidité de mobilisation du foncier compte tenu des outils mobilisables et des profils de propriétaires et du niveau de contraintes cumulées. De manière à pouvoir donner à la commune, donc en lien, pour chaque profil de propriétaire, de leur dire, ça ne va pas être un outil foncier unique à utiliser, mais bien un dispositif qui va en combiner plusieurs. On a ce type de profil de propriétaire, l'achat est le plus pertinent, parce qu'on a des gens qui ne sont plus là, qui sont nés dans la région, mais qui sont partis depuis longtemps. Donc là, on est sur les phénomènes d'exode, et on imagine que ces gens vont vouloir se défaire de leur foncier. On peut leur proposer de l'achat. On a d'autres qui sont sur la commune, qui ont d'autres propriétés ailleurs et dont on peut imaginer qu'ils sans forcément se défaire de la totalité de leurs biens, sont d'accord pour aider la commune à reconcentrer. Et donc, on peut passer par ces procédures d'échange avec des terrains que la commune elle-même possède ailleurs sur la commune. On a des comptes sur lesquels la récupération des biens sans maître pourrait être activée, parce qu'on a identifié que l'âge du propriétaire, on est à 130 ans. Voilà, on sait que c'est plus le propriétaire aujourd'hui. Personne n'a cherché à actualiser l'information cadastrale parce que les montants d'impôts fonciers à récupérer sur ces parcelles-là, ça représente rien du tout, personne. Mais du coup, c'est un indice de propriété qui est peut-être aujourd'hui en déshérence et la récupération des biens sans maître peut être activée. L'objectif étant, pour la commune, de commencer à concentrer un peu de surface à l'intérieur du périmètre qui va lui permettre d'enclencher plus facilement la procédure d'association foncière pastorale, parce que à partir du moment où on a réuni sur le périmètre 50% des propriétaires pour les trois quarts des surfaces ou 50% des surfaces pour les trois quarts des propriétaires, on peut enclencher la procédure qui du coup va s'imposer aussi aux propriétaires qui ne sont pas d'accord.